compagnie.
Une émission où l'on parle de polar et de vin en bonne compagnie.
Proposée par l'association Culture Art Polar Sud-Aveyron.
Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Il va avoir un réveil pénible.
Bonjour auditrices et auditeurs, lectrices et lecteurs. Je suis aujourd'hui avec l'insaisissable Lionel, trop rare hélas, l'intarissable Florent.
Bonjour.
Et nous sommes tous les trois dans la même cellule de 9 mètres carrés, alors que Nicolas, lui, exceptionnellement, aujourd'hui est de l'autre côté des grilles.
Santé.
À ta santé, Nicolas.
Donc, c'est le deuxième chapitre du tome 3 de cette saison de Polar V & Company, une deuxième émission consacrée aux événements organisés par Cap Polar au mois de septembre dernier. Le dernier week-end de septembre, le 27 pour être précis, ont été enfin dévoilés les résultats du concours de nouvelles. Nous allons en reparler et surtout, nous allons entamer dans ce chapitre la lecture de ces nouvelles. Après cette émission, vous pourrez écouter la nouvelle lauréate lue par Michel et qui est Lionel. Est-ce qu'on doit le dire ou est-ce qu'on laisse la surprise ?
On laisse la surprise.
Ça va, on laisse la surprise. Alors, Lionel, tu es une des pièces maîtresses organisateurs de ce concours de nouvelles. Tu nous fais un petit compte rendu et puis surtout, tu vas nous parler peut-être du prochain concours.
Oui, ben en fait, tout ça a démarré d'une idée, pourquoi on ne ferait pas un concours de nouvelles. Bon, on ne pensait pas avoir un tel succès au départ. On avait même songé à en écrire nous-mêmes pour combler un peu les vides. Mais finalement, arrivé au 31 août, on en avait 76. Et je ne vous dis pas la galère pour les lecteurs de s'envoyer
tout ça.
Pour
les membres du jury, oui.
En très peu de temps, parce que de toute façon, il n'y en avait 15 jours pour décider des lauréats. Donc, on était un peu débordés pour cette année, mais bon, on fera mieux l'année prochaine, d'ailleurs.
Enfin, on l'a bien fait, quand même.
Oui, non, ça
a été bien fait.
Ça a très bien marché. Il y a eu une session le 27 septembre à la Mesa pour annoncer les résultats qui a bien fonctionné. Et puis les auteurs et autrices avaient l'air contentes et contents du résultat. On a eu l'idée aussi de se dire que pour préparer les gens à l'écriture de nouvelles pour la prochaine session, il serait bien de commencer à faire des ateliers d'écriture ou des ateliers d'écriture sous forme de jeux d'écriture d'ailleurs plus, qui au rythme d'un par mois, enfin à déterminer, c'est pas encore bien déterminé. J'ai oublié de dire que pour le concours de nouvelles, ce sera annoncé au 1er avril avec de nouvelles contraintes éventuellement ou peut-être la reconduction du même système mais avec d'autres phrases type. Et ces ateliers d'écriture donc, se dérouleront au Créal samedi matin de 10h à 12h30, une fois par mois, a priori. Et s'il y a du monde que ça intéresse, est-ce que c'est sous la forme de jeux d'écriture pour certains, peut-être de préparation au concours de nouvelles pour d'autres sur des écritures plus longues et plus sérieuses. Mais on ne sait pas encore tout ça. Mais enfin, tout ça va démarrer le 29 novembre.
Oui, c'est ce jour-là que vous allez effectivement échanger avec les personnes présentes de l'organisation, de l'avenir, de la régularité.
De toute façon, on va faire une petite affiche pour annoncer dans Mio. Mais les personnes présentes devront être inscrites et membres de l'association. Bon, ce qui revient à une inscription, c'est 12 euros pour l'année, le fait d'être membre de l'association, ou 20 euros pour les couples. Donc c'est quand même, ça revient à 1 euro par atelier d'écriture. Consultez nos concurrents, vous allez voir qu'on n'est pas cher.
Et on ne propose pas que des ateliers d'écriture en plus. Donc c'est 1 euro par mois pour pas mal de choses.
Ah oui, oui, c'est 1 euro par mois pour l'adhésion à l'association Polar Vin et Compagnie, Cap Sud Aveyron, on ne sait plus trop comment l'appeler, tellement elle a de nom.
Il n'y en a que deux. Ce ne sera pas forcément encadré par des auteurs.
Non, la plupart du temps, ce sera encadré par des membres de l'association. Ouais. Ce ne sera pas une masterclass, ce sera plus des échanges. D'ailleurs, les gens qui voudront encadrer une des sessions, animer une des sessions ou proposer des jeux d'écriture différents, sont les bienvenus. Mais au départ, ce sera les membres de l'association organisateurs, et puis après, ça évoluera. Et éventuellement, si on a des auteurs de passage de bonne volonté, là, on pourra faire des masterclass avec l'auteur, un auteur estampillé, publié, imprimé.
Donc on en reparlera dans la prochaine émission, mais d'ores et déjà, on peut donner la date du 29.
Oui, le 29, ce sera la première session, donc au Créa, à 10h.
Ok.
Ouverture, la salle galerie même.
La salle est déjà réservée.
Oui.
Ok. Donc le concours de nouvelles, bah, tu as très rapidement dit, mais ça, c'est effectivement, on en reparlera, on aura l'occasion d'en reparler. Donc, deuxième série qui démarrera le 1er avril prochain, 2026. Une date, j'imagine, choisie par Facessi.
Oui, c'est par pure Facessi qu'on a choisi le 1er avril. Mais enfin, bon, connaissant les membres de l'ASOS organisateur, c'est pas étonnant. Bon. Ce sera donc du 1er avril au 31 août, ça ce sera comme l'année dernière, la deadline pour la remise des nouvelles. Par contre, la forme papier, triple exemplaire, je ne sais plus quoi, enfin bon, nous paraissait assez lourde, on va essayer d'en inventer une autre, beaucoup plus numérique peut-être, enfin bon. Et donc, 31 août deadline, et puis on va se laisser un peu de temps derrière, pas comme l'année dernière où on a eu 15 jours pour tout lire. Donc ce sera probablement novembre, début novembre qu'on annoncera les résultats,
ouais, et
qu'on fera
plus de temps pour les mamans du jury.
Une remise des prix, voilà. Ouais.
Alors, des nouvelles nous sont parvenues de Belgique, d'Allemagne même, et justement ce même 27 septembre à la Messa, nous recevions un auteur allemand débusqué par Florent, Éric Goffin, auteur de Un pays sans chemin,
édité au Rouergue Noir. Éric Goffin, un auteur allemand mais qui nous a gratifié d'un incroyable roman en français. C'est son premier roman. Il a été édité pour deux romans précédemment en Allemagne, mais aujourd'hui, ben, c'est en français qu'il a écrit ce polar.
Oui, ses romans allemands n'ont pas été traduits.
Ses romans allemands sont accessibles uniquement dans la langue de Goethe, ce qui est évidemment compliqué pour certains, comme moi.
Alors, ce pays sans chemin.
Un pays sans chemin, au Rouergue Noir.
Ouais, donc un roman.
Un roman
basé
sur une forme littéraire extraordinaire pour un non francophone. Alors, Éric Goffin réside en France depuis une trentaine d'années. Et ce roman part d'un fait divers qui a lieu en Provence, et une partie du roman est fictionnelle, mais c'est tout à fait étonnant la manière dont Éric Goffin travaille ce fait divers pour en faire donc un fait divers qu'on résume en trois lignes, pour en faire un roman de 500 pages.
Alors justement, donc il nous a, tu disais, gratifié, il nous a en tout cas consacré du temps, puisque l'après-midi, il y a eu une table ronde que tu as d'ailleurs brillamment animée. On va écouter un extrait de cette interview. L'interview dans sa totalité sera consultable, écoutable sur radiolarzac.org, sur la page Polar et Vin et Compagnie. On te laisse donner le coup d'envoi de cette interview avec cette première question que tu lui as posée.
Éric Goffin, quelles sont les difficultés rencontrées quand on part d'un fait divers pour en faire un roman? Qu'est-ce qui est le plus difficile?
C'est-à-dire, le plus difficile, c'est certainement déjà de choisir le fait divers qui pourrait faire un roman. Parce que chaque fait divers, bien sûr, est comme un embryon. Le roman, après, c'est pas seulement un être, ou ça doit devenir un être adulte, mais dans le meilleur des cas, ça doit en créer même toute une histoire, une historique ou des années, premièrement, de travail et parfois aussi des années sur lesquelles se déroule une action. Donc, le propre du fait divers, c'est que on en voit tous les jours sur Google passer, des meurtres, il y en a tous les jours, des histoires tragiques, il y en a tous les jours. Après, il y a quelque chose dans un fait divers qui peut nous interpeller, qui peut nous interpeller sur un sujet. En l'occurrence, dans une histoire comme celle-là, qui, une tragédie, une fillette de 8 ans qui est retrouvée sauvagement violée, assassinée, le fait divers, c'est créer des personnages, des présumés coupables ou des accusés sur lesquels s'était focalisée très vite l'opinion publique. Et comme toujours, sur ce genre d'histoire, évidemment, l'émotion est tellement forte que les médias s'en emparent. Souvent, on a vu ça dans d'autres histoires. Le monde politique s'en empare. L'émotion populaire, donc, qui fait qu'il y a une dynamique qui se met en place. Et c'est ça qui donne après un fait divers qui se déroule comme sur une scène de théâtre presque. Parce qu'il y a tellement de gens qui participent, qui s'y intéressent, qui se posent des questions, notamment quand c'est des faits qui deviennent des faits judiciaires après, qu'effectivement, à partir de là, on peut en développer, je dirais, un roman.
Le média peut participer à la construction d'un coupable ?
Absolument. Et pour vous dire, dans ce fait divers précis, donc, il s'agissait donc, d'un meurtre d'une petite fillette survenue en 1988 dans les Alpes de Haute-Provence, dans un petit village. La fillette disparut presque sous les yeux de ses parents, sous les yeux du village, la soirée d'une fête de village, et qui, quelques heures plus tard, se retrouve donc à quelques centaines de mètres, sauvagement assassinée et violée. Donc, on peut imaginer d'abord déjà toute l'émotion dans le village. On peut s'imaginer, par la suite, bien sûr, le lendemain, il y a la presse, toute la presse régionale, le surlendemain, la presse nationale qui s'y amène, et deux jours plus tard, le procureur, à ce moment-là, c'était le procureur de Digne, qui présente aux médias deux coupables, et l'immense titre sur le... C'était à l'époque, c'était La Provence, Nice Matin, c'est les journaux locaux. C'était quelques centimètres de haut, les monstres. L'histoire ou le narratif, deux monstres, sans remords, auraient avoué ce crime, et un crime qu'on soupçonnait qui s'était passé, éventuellement un meurtre rituel, sous emprise de drogue. Quelque chose qui, déjà, en lui-même, commençait effectivement à faire naître un narratif, une histoire qui ne pouvait mettre qu'une émotion, une région entière.
Alors, toi, tu as choisi ce fait divers parce que ça se passe dans la région où tu résides en France, en fait, je pense, ou pas très loin en tout cas.
Oui, c'est...
Donc c'est parce que ça te touche, mais quand tu prends ce fait divers, est-ce que tu décides de mener une enquête? Ou est-ce que tu vas travailler simplement à partir des, enfin simplement entre guillemets, des archives, articles de presse peut-être? Est-ce que tu es allé voir des avocats, des participants? Parce qu'il y a toute une la deuxième partie de ton roman est un polar judiciaire, on va dire, donc très, très intéressant d'ailleurs. Les personnages sont très vivants, donc comment tu as fait ce travail-là? Tu es allé voir les protagonistes, tu as mené ta propre enquête?
Mais sur cette affaire, en fait, je commençais à mener mon enquête quelques années plus tard. L'affaire elle-même s'est déroulée de 1988 à 1992. Il a eu lieu un procès, le procès aux Assises de Grenoble, qui était également un procès très médiatisé. Donc l'affaire en principe, elle était close. Il y avait eu une condamnation claire et nette, il y avait un acquittement. L'affaire était judiciairement finie. Mais elle était loin d'être finie dans la tête des gens, notamment dans la tête du village dans lequel ça s'était passé. Il y a toujours eu les spectres, le fantôme de l'erreur judiciaire. Parce que sur les deux présumés coupables, il y en avait un qui était acquitté. Et le fameux narratif de ce crime, soi-disant rituel, sur lequel il y avait un instigateur diabolique qui aurait amené un autre, un pauvre bougre, à exécuter ses souhaits, ses envies, sa perversion, ce narratif était totalement démonté. Mais ce narratif est toujours resté dans la tête des gens et notamment dans la tête des villageois. Donc moi, ce qui m'a intéressé à l'époque, c'était pourquoi, quand je me suis rendu dans le village, pourquoi, quand j'y suis allé, quand j'ai énoncé le moindre petit doute, peut-être l'autre, il était quand même innocent, il a été acquitté à juste titre, je faillis me prendre des baffes. Dans les villages, l'histoire est restée toujours, toujours, toujours accroché à ce narratif. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont vous reparlé de l'affaire, parce que je peux vous dire de l'affaire dont il s'agit, c'est l'affaire qu'on appelle aussi l'affaire de la petite Céline, l'affaire Richard Roman. Vous allez très souvent entendre « Oula, voilà, c'est l'affaire de l'erreur judiciaire probable. On n'en sait rien, on ne sait pas s'il y était. » Ce qui m'a intéressé, en fait, c'était comment on arrivait à la construction d'un coupable, alors que tous les éléments matériels dans le dossier, tous les éléments qui étaient tous les indices, les déculpabilisaient. Mais pourtant, jusqu'à aujourd'hui, on veut croire qu'un des deux, que ce personnage de Richard Roman, qu'il était le coupable.
C'est ça qui t'a interpellé dans ce fait divers ou c'est...
Ce qui m'a intéressé, c'était cette histoire de comment un village, et après, avec lui, une région et presque un pays, fait une sorte d'identité propre sur la base d'un tel coupable, celui-là et pas un autre. On avait un coupable. On avait dans cette affaire, on avait quelqu'un qui était condamné. Mais on ne voulait pas de celui-là. On voulait d'un autre. Et c'est ça que je trouvais extrêmement intriguant et intéressant, puisque c'est quelque chose, de toute façon, je pense que pour faire un roman, il faut un sujet qui soit plus grand. C'est pour revenir à l'histoire du fait divers. Il faut un sujet qui soit plus grand que le fait divers. Donc, c'est vrai que là, ce qui m'intéressait, c'était à la fois même partir de la sociologie, ou partir du microcosme d'un village qui se répand après sur le macrocosme de la scène médiatique d'un pays entier.
Alors c'est vrai que le roman colle assez bien à la véritable histoire, mais il y a une part de fiction. Tu changes un des deux présumés coupables, même s'il reste un marginal, bon, c'est pas le même marginal que dans la vraie histoire, on va dire. Est-ce que c'était important pour toi de pas coller absolument à l'histoire ? Est-ce que c'était nécessaire de rajouter d'autres couches au caractère, je sais pas.
Et je dirais que dans la mesure où on travaille sur du fait divers, sur du réel, il y a, je dirais, trois possibilités. C'est-à-dire où vous écrivez, comme il a fait le grand ancêtre, voilà, du roman documentaire policier, Truman Capote, avec son roman de sang-froid, très connu, qui restait collé vraiment de façon millimétrique à l'affaire. Il est allé sur les lieux, il a tout investigué, il a attendu d'ailleurs le jugement, dans son cas même l'exécution des coupables à laquelle il a assisté, pour pouvoir terminer son roman. Donc il n'a strictement rien inventé. Après, vous avez d'autres exemples, comme par exemple Emmanuel Carrère dans L'Adversaire, lui qui a assisté également au procès de la personne, mais qui s'est inventé son personnage de narrateur pour s'opposer à cette personne, mais restant aussi toujours très très proche de l'affaire. Il a réinventé. Et après, vous avez la troisième possibilité, c'est-à-dire qu'il faut prendre des choix. Moi, je n'ai pas voulu coller à l'affaire, parce que je voulus, par la fiction, justement, insortir ce que je considérais comme l'essence de l'affaire. Donc, à partir de là, où on prend le risque, tout en restant collé à l'affaire, on invente, on se prend des libertés, à ce moment-là, on peut très facilement heurter aussi la sensibilité de certaines personnes. Moi, je suis, justement, je fais exprès de ne pas ni m'approcher du père ni de la mère de la victime. J'ai cherché à l'époque à interviewer un des présumés coupables, donc Richard Roman en l'occurrence. À l'époque, son frangin que j'avais contacté m'avait dit, voilà, restez loin de mon frangin, il ne doit plus en entendre parler. Personne très fragilisée, bien sûr, par l'histoire. Donc, j'avais toujours la possibilité d'aller voir, bien sûr, tout le monde en périphérie de l'affaire. C'est pour ça que je suis allé voir notamment tous les avocats qui m'ont accueilli tous les bras ouverts. C'était surtout, c'était, en plus, c'était des grands noms du barreau. Mais c'était tous des personnes qui avaient envie et presque besoin de parler de cette affaire. Parce que c'était une histoire qui était tellement emblématique que d'ailleurs, après le procès de Grenoble et après donc, la preuve de faux aveux, parce qu'il faut dire bien une chose, c'est que les deux accusés, effectivement, ils avaient avoué un garde à vue leur crime. Mais il y avait des aveux qui étaient, bon, qui s'avéraient des faux aveux. Donc c'est à partir de là qu'on a changé, oui, suite à cette affaire, qu'on a changé même la législation. À l'époque, il n'y avait encore pas la présence de l'avocat lors de la garde à vue. Et c'est après cette affaire-là qu'on a instauré pour la première fois la présence de l'avocat en garde à vue à partir de la 20e heure. L'heure à laquelle l'accusé Richard Roman, justement, il avait craqué.
C'était une interview d'Éric Goffin. On retrouvera cette interview d'intégralité sur la page de l'émission Polar 20 et compagnie sur radiolarzac.org. Il nous fallait un morceau de musique en lien avec effectivement le fait divers, et c'est par un jeu de mots, fait divers diapostrophe H-I-V-E-R, qu'on écoute Plume la traverse. Ça nous rappellera un petit peu l'accent de Louis Zolini.
Dans le bloc à côté de chez nous, établissement plutôt étrange, habité par une gang de fous, moitié démon et moitié ange, vivait une vieille dame toute tranquille dans son mini appartement, en plein milieu du centre-ville et de ses nombreux habitants. Cette vieille n'avait qu'un seul ami, domestiqué par habitude, une espèce de gros chat tout gris, compagnon de sa solitude, qu'elle traitait avec plein d'amour, lui offrant la crème de ses restes, le partage de ses derniers jours et ses économies de gestes. On a tout un petit minou d'amour qui nous passe entre les deux jambes. Un petit minou qui dort le jour, qui passe avec le temps qui personne vraiment dans le quartier. Elle connaissait la vieille au chat gris. À peine la voyait-on passer à petits pas vers l'épicerie, ou quand elle s'étirait le cou par la porte de son balcon, en appelant son vieux matou pour qu'il revienne à la maison. Un soir d'hiver, un soir très doux, où il neigeait à gros flocons, j'ai vu le chat devant chez nous se faire écraser par un camion. Cri de douleur pendant la lune, la vieille sortie de sa maison, de la voir dans la neige brune. J'avais la gorge pleine de mottes. On a tout un petit minou d'amour qui nous passe entre les deux. Avec le temps qui court. Alors
saisissant dans ses bras. Telle la vie que la mort emporte, la forme inerte de son chat. Elle tituba jusqu'à sa porte, laissant pleurer des gouttes de sang. Enchapelée sur la neige blanche, elle gagna son appartement, s'enfermer dans son avalanche. La suite de ce fait divers se laisse facilement deviner, mais ce n'était pas que la petite affaire quand la police les a trouvés. Deux semaines plus tard, à cause de l'odeur, dans une morbide position, la vieille qui serrait sur son cœur son choix en décomposition.
C'était donc Plume la Traverse dans Faits divers. On retrouve Lionel d'Intercave qui nous parle du Croz Hermitage, vin choisi par Éric Goffin pour encore mieux apprécier son roman Un pays sans chemin.
Il y a trop de gens qui ne savent pas ouvrir une bouteille de vin.
Oui, eh ben, le pinard, c'est pas interdit que je sache.
Très joli vin, Croz Hermitage, ouais.
Alors, Croz Hermitage, vallée du Rhône, entre Drôme et Ardèche, juste au-dessus de Valence.
C'est ça, Croz Hermitage, on est dans ce qu'on appelle le Rhône septentrional, contrairement au Rhône méridional, où tu as tous les Gigondas, tous les Rastos, tout ça. Donc, côte du Rhône du Nord, du coup, hein, septentrional, on trouve du coup, le Croz Hermitage. En face, de l'autre côté du Rhône, il y a le Saint-Joseph. Si tu remontes un peu, tu trouveras les Cornas, l'Hermitage, le Côte-Rôti, appellations les plus prestigieuses, en fait. Hein, voilà. Donc, dans ce Rhône du Nord, ça fait partie des vins les plus abordables niveau rapport qualité-prix. Ouais.
Alors, on revient au Croz Hermitage. Alors, le Croz Hermitage, eux, c'est la Syrah, qu'on trouve souvent associé au Grenache, au Mourvèdre, je pense au Pic-Saint-Loup notamment. Okay. Et là, par contre, il n'y a pas d'assemblage.
Ouais, donc particularité de cette appellation, en fait, c'est qu'en rouge, c'est 100% Syrah. Contrairement au, si tu prends un Côte-du-Rhône, un Vaqueras ou un Gigondas, tu auras Grenache, Syrah, Mourvèdre, au moins les trois dedans. Donc c'est particularité de ces crues, hein, des Côtes-du-Rhône du Nord. Ouais.
Alors souvent dans les assemblages, le Syrah, c'est celui qui amène un peu le tanin, non? Donc c'est pas un vin trop tannique?
Dans la jeunesse, la Syrah amène beaucoup de fruits, des petits fruits rouges, un peu de fleurs violettes. Souvent on dit, voilà, Syrah c'est fruits rouges, un peu de violette, un peu de côté un peu épicé aussi. Voilà. Alors au niveau tanin, ça dépend du terroir. Les Croz Hermitage justement sont pas trop tanniques, contrairement à l'Hermitage. Ça dépend vraiment du terroir et aussi de l'élevage en fût ou pas. Donc Croz Hermitage, Syrah, ça reste un vin quand même... c'est sur la gourmandise, quoi. Sur le fruit, la gourmandise. Souvent, c'est assez fin, tout en finesse, tu vois.
Donc, il accompagnerait quel type de plat?
Ah bah moi, je trouve l'accord parfait. Syrah, côte de bœuf. Ouais, c'est top.
Au barbecue.
Carrément, viande grillée, côte de bœuf. Moi, je trouve que c'est un joli accord, tout en finesse, en fait, voilà.
Donc le T-bone, donc c'est bien, c'est la saison là.
Ouais, carrément, hein. Essayez franchement un Saint-Joseph avec une côte de bœuf, hein, voilà, c'est en finesse. Après, dans la jeunesse, c'est des vins, tu peux les mettre avec une viande blanche même, tu as du lapin, des trucs comme ça, un plateau de charcuterie. Saint-Marcellin, pourquoi pas, dans la jeunesse, quoi. Après, ils évoluent et on n'est plus sur des viandes des gibiers, des... Voilà, des viandes grillées.
Ce sont des vins de garde ou...
Ah oui, très grande garde. Par exemple, si tu prends, alors pas les Croz Hermitage, mais si tu prends un Hermitage, c'est des vins qui ont une garde hyper longue, 30 ans, 40 ans, ouais. Et qui sont quasiment impossibles à boire dans leur jeunesse, un Hermitage, si tu veux.
Je crois qu'ils ont aussi des blancs.
Tout à fait, Croz Hermitage blanc, donc Roussanne-Marsanne en général, voilà, c'est deux cépages, hein, c'est ça, Roussanne-Marsanne. C'est plus confidentiel, tu as du Saint-Joseph blanc, du Croz Hermitage blanc, beaucoup moins. Hein. Je te donne des vins très agréables. Roussanne-Marsanne, c'est rond, c'est fruité, voilà.
Les prix à peu près, pour donner une idée
Croz Hermitage, tu peux commencer dans les 15 euros, je pense, pour avoir quelque chose de vraiment sympa, d'un bon vigneron. Ouais, on est entre 15 et 20, je pense, ouais. Ça peut monter plus, hein, voilà. on va dire 20 euros, quoi, allez. C'est un des crus les plus abordables de la vallée du Rhône Nord. Parce que si tu prends un Côte-Rôti ou un Hermitage, t'es plus dans les 60 euros. Tout de suite, hein. Voilà. Donc, ça reste abordable pour ceux qui veulent justement goûter ces 100% Syrah, voir un peu ce que ça donne. Faut aller sur un Croz Hermitage ou un Saint-Joseph.
Ben merci Lionel. Merci on va apprécier donc un petit Creuse Hermitage en lisant évidemment Un pays sans chemin d'Éric Coffin qu'on va consommer, pas le livre mais le vin, avec modération.
Merci beaucoup et à la prochaine.
Les activités continuent, donc on a vu bientôt un atelier d'écriture qui va démarrer à la fin du mois. Le prix Robin Cook, on est en train de choisir les romans qui seront présentés. Et puis, une opportunité qu'on a saisie, que tu as saisie, Florent, on reçoit bientôt Maya Thirier.
Maya Thirier qui a écrit son premier roman qui est un thriller, Sans Éden, aux éditions Emmanuel Colas, qui sera donc dans nos studios le 14 novembre pour une interview qui, j'en suis sûr, sera passionnante parce que son roman est excellent, hein, et je reste poli. Et alors, la grande nouvelle, c'est que selon toute vraisemblance, mais ce sera confirmé très bientôt, Maya Thirier sera à Millau le 21 novembre chez Syllab à la librairie pour une séance de signature et une petite discussion ou une longue discussion. Et le 22 au matin, de 9h30 à 12h30, on aura la chance d'assister à la projection d'un court-métrage que Maya Thirier a réalisé il y a quelques années, puisque c'était son premier métier, sa première passion, et elle animera un atelier d'écriture en lien avec ce petit court-métrage qui dure 25 minutes. Voilà. Et en fin de journée, le 22, elle sera à Saint-Afrique, à la librairie dont j'ai oublié le nom, et là je vais me faire engueuler, pour une signature, mais de toute façon vous redonnera des nouvelles, il y aura des affiches partout. J'espère une petite couverture de presse.
Ben alors, inspecteur des Riffs, on n'a pas préparé? C'est la librairie Les Feuilleuses à Saint-Afrique, nouvelle librairie, place de la mairie.
En tout cas, venez nombreux les 21 et 22, pour découvrir Maya Thirier et Sans Éden, pour ceux qui ne la connaissent pas encore.
On vous en dira plus le vendredi 14 dans cette émission.
Ce deuxième chapitre du tome 3 de Polar Vin Company se ferme. Merci Lionel, merci Florent, merci Nico. On se retrouve mardi pour une rediffusion à 16h et pour le troisième chapitre le vendredi 14. Et surtout, restez en ligne puisque après ce générique, vous pourrez entendre Michel qui nous lit la nouvelle lauréate, Le mort arrangé de Trois-Rivières, écrit par Florence Bentéjac, professeur de français, toute jeune retraitée. Bravo Florence.
Bravo et merci Nico, merci les gars.
À bientôt.
Au revoir.
Avec une bande de bras cassés pareil, pas étonnant que ça ait tourné à la béchamel infernale. Le capitaine Zarmo shoota rageusement dans une souche pourrie. Pour commencer, ses deux lieutenants. Le lieutenant Labèze avait tripoté le cadavre, sans gants, et dans ses fringues de ville, semant à tout vent ses longs cheveux châtains à reflets dorés et les poils de sa barbe rousse. Le lieutenant Vassingue avait ensuite piétiné la scène de crime de ses 120 kilos comme une compagnie de sangliers sous un chêne truffier. « Les voilà, mon capitaine !» avait prévenu la brigadière Clémence Cerisier, la seule à ne pas avoir mis ses doigts partout. « Charmante Clémence !» se dit Zarmo. « Dans mon polar, j'en ferai une eurasienne sexy. Je l'appellerai Sakura Fuzitu. » Quand la section scientifique de Montpellier entra dans le bois, tout le matériel génétique avec lequel il comptait incriminer Eva Brontis-Vaya, dite Eva Braun, la tueuse à gages qu'il traquait depuis 2 ans, avait été gâché, mâché, pelé, écartelé, martelé, modelé, bouillu foutu. « Je mettrai ça dans mon polar !» se dit Zarmo, écumant de rancune. On saurait au moins qui était le mort du bois Menou, car il était sûr, le cadavre ne venait pas d'ici. Homme blanc dans la quarantaine, vêtu d'un costume désormais maculé de sang, un costume cher et de bonne coupe. Cheveux taillés de frais et ongles bien tenus. Pas l'osérien, le cadavre. Pendant que les experts s'affairaient, Zarmo lança des recherches depuis son téléphone pour connaître les derniers abonnés absents. Zarmo, roi des recherches sur le web, king des réseaux. Personne du coin. Il y avait eu un entretuage à Vallée Française, une querelle de voisins pour une histoire de chiens et de mollets mordus. Mais les deux protagonistes de l'affaire étaient à leur place assignée. Le vivant en garde à vue, le décédé à la morgue. Quoi qu'il faudra que j'appelle pour vérifier, se dit Zarmo. Avec une telle bande de truffes au service médico-légal, ils ont pu perdre un cadavre. Il vérifia ensuite l'Aveyron voisin. Rien, pas plus que dans l'Ardèche. Il avait gardé pour la bonne bouche le département limitrophe, pourvoyeur de camées et de cadavres. Le Gard, antichambre des gangs marseillais et mec des chauffeurs. Ses cases de branquignoles et ses corridas de cité. Mais là encore, il fit chou blanc. Pas étonnant, finalement. La zone de travail d'Eva dépasse 4 départements. Attendons qu'on étiquette le mort. Après avoir salué chaudement les experts, glacialement ses sous-fifres, le capitaine Zarmo entra chez lui à la caserne. Il se mit à son roman qui n'avançait pas, et après une petite heure, il lâcha l'affaire et se replongea dans le dossier Eva Braun. Outre la collection de cadavres masculins photographiés dans des postures sans équivoque, il avait compilé de multiples informations sur Eva, vraies ou fausses. Environ 25 ans, 1m75. Blonde, vraie ou fausse, nationalité russe. Aurait appris à tirer en chassant l'ours dans les forêts de Sibérie avec son beau-père, un ancien colonel du KGB. Parlerait 6 langues. Experte en Krav Maga, mais toujours pas l'ombre d'une empreinte génétique. Au moment de se coucher, il repensa à ses collègues. En plus de leur nom d'abruti, jamais vu pire duo de baltringue. Il se vengerait en les mettant dans son polar. Vienne la nuit, sonne l'heure. 3 jours plus tard, le capitaine réunissait l'équipe de la gendarmerie de Trois-Rivières. C'était son quart d'heure de gloire. Mais, à voir les mines de Labèze et Vassingue, plutôt douleur dans le fondement pour eux. Seule, la brigadière Clémence Sakura, cerisier, affichait un large sourire béat de ravie de la crèche. Le mort était Ange Lipozuko, un promoteur immobilier de Montbeulieu-Nanapoule, soupçonné d'indélicatesse variée, jamais pris la main dans la caisse à outils. Sa maman, depuis Bastia, avait appelé le commissariat 4 jours auparavant. Son fils Ange, qui lui téléphonait quotidiennement, n'avait pas appelé depuis 2 jours. Il lui était arrivé quelque chose. « Bon fils !» pensa Zarmo. Le lendemain, Laetitia D., compagne de Lipozuko, avait signalé également sa disparition. Laetitia, dite Letty, était venue en Porsche à Mende identifier le corps. C'était bien le Bastier à sa maman. On attend les résultats des prélèvements ADN, mais vu la manière dont vous avez bordélisé l'enquête, ça risque de ne pas donner grand-chose. Heureusement, c'est signé. Mode opératoire, 2 balles à bout portant. Eva Brontiskaya, exécutrice de la mafia russe, basée sur la Côte d'Azur, mais elle se déplace. L'apparition d'Eva sur l'écran numérique suscita des sifflements admiratifs des lieutenants Labèze et Vassingue. Vous excitez pas trop vite. Brontiskaya est surnommée Eva Braun. Après la femme, voilà ses œuvres. La photo suivante était celle d'un corps masculin, la tête en bouillie. Un envoi de Genève. Le banquier Jean-Alexandre Gluck, qui trempait dans des affaires louches et avait oublié de renvoyer l'ascenseur et les sous. Sur la côte, ils ont toute une collection de tableaux de maîtres de ce genre attribués à Eva. C'est quoi qui porte le mec? Ce truc noir? On dirait une cagoule en haut, mais ça descend, sauf la latex. Une combinaison pour des pratiques un peu spéciales. Ça couvre tout le corps, en laissant des trous pour les yeux, la bouche, tous les orifices. Et ça laisse les organes génitaux à l'air. Quelle arme? Demanda Clémence. Fusil gros calibre, 2 balles tirées presque à bout touchant, 1 dans la tête, 1 dans le cœur. Ni sperme, ni sécrétion vaginale, aucun ADN. Il semble qu'il n'en était qu'au préliminaire. Du travail de pro. Pauvre mec, mourir l'habit à l'air sans avoir conclu, fit l'abbesse. Zarmo lui jeta un regard létal. Je vous rappelle qu'avec vos conneries, nous avons tous volontairement donné nos ADN, y compris moi et la brigadière Cerisier, qui n'avons rien dégueulassé. Nous. Zarmo continua d'avoiner ses sous-fifres. Pour finir, voyant qu'il en faisait trop, il tenta de détendre l'atmosphère en racontant l'histoire du mec moche qui finissait sous un autobus. Il dut leur expliquer la chute qu'ils n'avaient pas comprise. Le duo sortit en ricanant, comme des collégiens acnéiques. Ne restait que Clémence. « Brigadière, je peux vous poser une question ?»« Oui, capitaine. » « Brigadière, pourquoi tout le monde me déteste ici ?»« Mais capitaine, on vous déteste pas. »« Mais si, tout le monde me déteste, allez-y, balancez. Je suis prêt à entendre des choses désagréables. » Clémence se tortillait. Elle finit par lâcher. « Capitaine, c'est pas vous qu'on déteste, c'est vos blagues. »«
Mes blagues ?»«
Ben oui, vous êtes un type bien, capitaine, mais vos blagues, elles sont pas drôles. » Et Clémence décampa comme une petite fille aux amulettes poursuivie par un mort-vivant. « Pas drôle, mes blagues ?» se dit le fils spirituel d'Audiard père. Il restait là, perplexe, lorsque le téléphone sonna. « Capitaine Zarmo, Paronymus de la scientifique. On a vos résultats. On a trouvé un ADN féminin sur les vêtements de la victime. Pas grand-chose, mais on a pu analyser des traces dans les fibres du pantalon. Yes ! Zarmo se sentit tout ragaillardi. On a identifié un profil génétique complet. Il n'est pas dans nos fichiers. Mais on a trouvé une correspondance avec de l'ADN familial enregistré chez vous. Impeccable ! On lance les recherches sur l'individu. Vous m'envoyez tout ce que vous avez. C'est que, capitaine, l'ADN de parentèle qui a matché... Eh bien, c'est le vôtre. Mais c'est pas possible ça, mon petit Josh. Il y a une erreur. Vous vous êtes emmêlé les éprouvettes. Mon capitaine, je ne sais pas si cet ADN est celui de l'auteur du meurtre, mais ça, c'est votre boulot. Mais je peux vous dire une chose. Celle qui a laissé son ADN sur le costard, à 99,9%, c'est votre fille. Mais j'ai pas de fille, hurla Zarmo. Que vous croyez, répliqua perfidement Josh. Vous vous êtes planté. C'est celui d'un des deux agrutis. Les lieutenants Tony Vassing et Elliot Labèze, les deux agrutis comme vous dites, en ont foutu partout. Mais sur le costard, c'est pas à eux. Bah, alors c'est mon ADN que vous avez récolté, je l'ai laissé sur le corps. J'ai pollué la scène de crime. Capitaine, je sais faire la différence entre un cochon de lait et une brebis clonée. C'est un ADN féminin. Celui de votre fille, que ça vous plaît, Zarmo avait raccroché. Le soir même, devant ses dossiers, toujours furax contre Paronymus, Zarmo réfléchissait. L'âge, c'était possible, mais Eva Braun était russe. Quoique, elle parlait russe, travaillait pour la mafia russe, mais elle pouvait être estonienne. Il fixait les deux clichés pixelisés d'Eva Braun dont il disposait. Il lui trouva une certaine ressemblance avec S. Et avec lui, S avait essayé de le contacter un an ou deux après. Les souvenirs torrides d'un été à Tallinn lui revenaient en masse. Cela, il ne pourrait vraiment pas les mettre dans son polar. Quel était le lien entre la femme à l'ADN et l'hypozuco? Le mort arrangé de Trois-Rivières. Il n'était plus aussi convaincu maintenant qu'elle soit sa meurtrière. Ah, « Je ne suis plus certain de grand-chose d'ailleurs, » soupira-t-il. « Mais vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. »